Alors, c'était bien hier,
non ? Alors, hier, on a un record.
Ah, d'audience ?
Non, on a le record de la plus longue réponse à une question.
Ah oui, ça, c'est possible.
À Francis Huster, quand je lui ai parlé de son livre et je lui ai demandé s'il n'y avait pas un danger du « c'était mieux avant ».
Interroger les gens qui nous écoutent, est-ce que dans leur propre famille, leurs enfants ont vu cette année une pièce de Shakespeare, une pièce de Corneille, une pièce de Racine, une pièce de Molière, une comédie, quelque chose
qui vous ramène à cet
échange entre le public et les acteurs de théâtre, on a des trésors absolument sublimes.
Même en accéléré, il parle quand même beaucoup.
C'est une belle logorée.
Ouais, le site, il est pas prêt d'arriver sur le champ de bataille.
On accélère encore ?
Ouais, vas-y, vas-y.
Allez, on accélère.
Ah, voilà.
Là, on va à l'essentiel, là. Hein.
Voilà.
Ouais.
On est pas
encore
au bout.
Ah, voilà.
1:12.
Hop,
il nous a fait Francis.
Battu.
Record battu. Alors qu'il faudrait faire comme André Manoukian, aller à l'essentiel.
Le fin que ça transpire du cul, et c'est ça qui est bon.
Ah, bah ça, c'est l'essentiel, hein.
C'est l'essentiel.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous les fainéants de la Terre. Vous vivez dans une Startup Nation ? Ça tombe bien, vous écoutez une Startup Emission. Et voici les trois informations qu'on s'est fait livrer avec les sushis par un esclave à vélo. Les coulisses du pouvoir alimentent la littérature. Ceux qui ont été introduits au palais trempent leurs plumes ensuite dans l'acide dès qu'ils en sont sortis. Est-ce qu'on voit le pouvoir différemment quand on sait si le secrétaire général de l'Elysée est plutôt slip ou caleçon ?
Entrefouille merde, je vais t'en filer, moi, du biscuit sur Georges pour ta feuille de chou. Ça va fuser les potins, les ragots.
On savait que le glyphosate était au menu de nos déjeuners, de nos dîners à travers les légumes, mais il s'invite aussi au petit-déj dans nos céréales pour les empoisonner.
T'es sûr que tu veux pas goûter le Benko ?
Moi, je bois que ça, j'adore ça.
Un délice.
Quelles sont les 10 recherches les plus fréquemment tapées dans Google ? Une étude au niveau mondial montre qu'on se pose tous les mêmes questions et qu'on se les posait bien avant Google. Hein ?
Comment on fait les bébés ?
Voilà, lui, c'est bien la seule fois où il a été dans les choux, tellement il a une santé de fer, n'est-ce pas ? C'est
mais
Alex Vizorek.
Je l'ai tapé, moi, ça, sur Google, comment on fait les bébés, et on trouve de belles choses. Et autour de la table, une équipe formidable à 17h20, celle qui ouvrira le bal des chroniques. Ce sera donc l'apéritif de cette émission, et Dieu sait si elle respectera cette responsabilité. C'est Juliette Arnaud, bonjour !
Bonjour ! Alors aujourd'hui, un livre que j'aurais pu écrire.
Oh.
Enfin, le titre, en tout cas, j'aurais pu l'écrire. Le titre, c'est « De fringues, de musique et de mecs ».
Très bien, d'un programme. 17h30, l'homme qui raconte de belles histoires et qui n'est pas Emmanuel Macron, car lui, il connaît la fin de ces histoires. C'est Thomas Bidguin, bonjour.
Mais bonjour, bonjour à tous, bonjour Charline, ça va ?
Ah, oui.
Je viens vous parler de punition et de sévérité.
Oula. Oh là là.
Ah oui, encore, Thomas.
Quelqu'un doit le faire.
À 17h40, celle qui réfléchit au point de vexer les miroirs. La galerie des glaces de cette émission, c'est Isabelle Sorin. Bonjour.
Waouh, Alex.
Ah ouais, j'ai tout donné.
Là, je suis impressionnée de la vie secrète des arbres, parce que les arbres ont des choses à nous dire.
Je le sentais que ça allait être par là. Et 17h55, nous recevrons une guitare qui viendra nous chanter l'actu, une guitare qui joue extrêmement bien, du Frédéric Fromet.
Et je me tourne vers celle que nous avons invitée dans notre open space de start-up. Le grand public vous découvre au cinéma grâce aux comédies de Francis Perrin, Le Roi des Cons. C'est le titre du film, hein, ça n'est pas Francis Perrin. Et en 1983, votre second rôle dans L'Étoile du Nord est couronné d'un César. Vous faites aussi une grande carrière au théâtre et vous tournez pour la télévision. Vous êtes l'une des pionnières ayant porté les monologues du vagin.
La pionnière.
C'était
la
à Bruxelles.
C'est là. À Bruxelles, absolument.
Oui,
vous avez vu.
Théâtre de Poche.
Ah, vous aviez vu au théâtre de Poche ?
Moi aussi, j'étais là.
À Bruxelles ?
Oui,
c'est vrai.
Vous
êtes d'âge tous les deux.
Ouais,
voilà,
ouais,
c'est
ouais.
Ça.
On et était venus pour vous.
Vous êtes, dites-nous votre nom.
Fanny Cottençon.
C'est elle, on l'a reconnue.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Et oui, vous étiez la toute première, alors
c'était chouette de le créer à Bruxelles, au Théâtre de Poche, au milieu, au Bois de la Cambre.
Exactement.
Il y avait un directeur, je ne sais pas si vous le connaissiez, ce directeur du Théâtre du Bois de la Cambre, qui était un homme absolument délicieux. C'est des gens qui faisaient un théâtre très engagé.
C'était extrêmement couillu de faire les monologues du vagin à l'époque.
Mot, hein.
Non, mais c'est vrai.
Ouais. Non, c'est pas couillu, c'était juste essentiel pour moi. Enfin, quand je.
On est d'accord.
Voilà. Le directeur qui était des gens merveilleux vraiment. Et il était accroché à son. Parce qu'il y avait un bar.
Toujours
vous vous souvenez
nous, toujours chez nous.
Oui.
Une règle.
Et on pouvait danser après et rester avec les spectateurs et tout ça. Puis les spectateurs, ils avaient chaud, ils étaient nombreux. Quand je sortais avec eux, je dis ça va, vous avez pas trop chaud. On avait chaud, on était serrés, on était bien. C'était trop mignon. Et au bout de deux jours, c'était bourré. Hein, parce qu'alors, les Belges, ils ont cette différence avec les Parisiens. C'est que quand ils aiment, ils se posent pas la question s'ils doivent aimer ou pas aimer. Ils aiment ou ils aiment pas. Et là, ils ont aimé tout de suite et ils sont venus.
Et donc, on note qu'ils ont été créés à Bruxelles plutôt qu'à Paris, où c'était plus facile
de les créer.
Et après,
c'est grâce au fait que ça a été créé à Bruxelles que ça a été créé.
Et pourtant, ici, on assiste à une création ce week-end. Festival, le premier festival du journal intime, qui a lieu donc du 15 au 17 septembre. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Vous allez faire des lectures avec Mazarine Pinjot. Ce sera samedi à 14h. Mais le journal intime, Fanny Cottençon, c'est pas supposé être lu.
Et ben oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que vous faites
c'est
là
justement, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on fait un festival du journal intime qui, a priori, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et qu'on garde pour soi. C'est juste pour soi. Ouais. Mais il y a Philippe Lejeune qui est un monsieur que j'ai rencontré. Je voudrais bien qu'il m'adopte d'ailleurs, tellement il est délicieux. monsieur qui a un grand universitaire, qui a écrit beaucoup sur la spécialiste de l'intime et tout ça. Et donc il a retracé un peu l'histoire du journal intime, qui était vraiment intime jusqu'à ce que, effectivement, des auteurs les sortent. Et ça, et après, c'est vrai que le journal intime écrit par des auteurs. Ils écrivent aussi un peu pour la postérité, non plus trop pour... Oui. Mais bon, tout ça est très intéressant. Et il y a une association aussi qui a été créée pour l'autobiographie, le patrimoine autobiographique, qui reçoivent, des autobiographies de gens pas connus, et sur un plan à la fois sociologique...
Ça raconte une époque, hein,
ça raconte une époque aussi, historique, sociologique, ça c'est très intéressant.
Alors il y a des grands auteurs, c'est vrai, comme Stendhal, Hugo, Kafka, Simone de Beauvoir, qui ont écrit des journaux intimes. Il y a aussi des anonymes. Est-ce que quand dans ce festival on lit les anonymes, il le reste par rapport aux grands auteurs?
Oui, parce que c'est vraiment des anonymes. Oui. Et alors, ce qui est très très beau aussi, il y a aussi des... Moi, je trouve que c'est très intéressant dans ce festival. Vraiment, c'est passionnant. Hein. Et ce qui est très intéressant dans ce festival, c'est qu'il y a des ateliers, notamment avec des adolescents. Et j'ai écouté, parce que je suis allée le lancement du festival à la mairie du 4e. Et y avait des gens qui lisaient, des jeunes gens qui lisaient des journaux des mots d'ados. Et c'était extrêmement touchant. Mais de toute façon, un journal intime, c'est touchant.
Ouais. Alors vous allez justement lire avec Mazarine Pinjot. Quel texte vous allez lire? J'ai lu qu'il y aurait notamment Benjamin Constant.
Oui, il y a plein d'auteurs. C'est en fait... moi, j'ai un peu choisi ça quand on m'a proposé de choisir. Parce que c'est une réflexion sur le pourquoi on écrit un journal intime. Et voilà, et donc il y a plein d'auteurs qui disent pourquoi ils écrivent un journal intime, pourquoi c'est nul, pourquoi ils le font quand même, etc. C'est très intéressant, c'est bien pour ouvrir le festival justement du pourquoi du journal intime.
Un festival qui a lieu, vous allez nous dire, dans le 4e arrondissement de Paris.
Et dans lequel je partage l'affiche avec...
Mais oui, moi je vais lire avec Claire Chazal.
Oui. C'est pas vrai.
Et journal intime sur l'amour.
Mais il y a conflit d'intérêts, vous voulez dire, avec notre invité.
Venez ou venez pas, mais en tout cas, nous on va lire des journaux.
Sur le programme, il est annoncé comme Alexandre Rizorek.
Oui, ça fait chic. Hein. Je suis lecteur.
Je me suis dit, c'est un homonyme.
Alors, on a conscience que ça se passe dans le 4e arrondissement de Paris. Ça fait très, très circonscrit, mais l'initiative est là. Et puis, si vous êtes en dehors, ça permet de rappeler que de grands auteurs ont écrit l'intimité et qu'il est bon de peut-être s'y replonger dedans.
Et d'écrire vous-même la vôtre.
Ah, voilà, c'est encore plus beau. Oui. Fanny Cottençon est avec nous. Et elle sera donc au Festival du journal intime à Paris ce week-end. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, The mini skirts, the current thing, Teeny bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La
da-da-da. Grocery stores, a supermarket.
Beat Goes On et Juliette, vous qui connaissez ce morceau par cœur, qui chante ?
Mais c'est la fille du compositeur.
De Buddy Rich.
Et qui la présente au début du morceau en disant « She's drunk and she's 10 », c'est-à-dire elle est saoule et elle a 10 ans. Elle n'est pas du tout saoule.
Elle a 10 ans.
Et elle a 10 ans. Et c'est pour ça que parfois on entend un petit peu dans sa voix des choses un petit peu bleues, tout ça, mais qui sont magnifiques quand même. Elle a 10 ans.
Merci Juliette. Programmation musicale, Djoubaka, bien sûr. Fanny Cottençon est notre invitée. Elle est ce week-end au Festival du Journal Intime. Ça se passe à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Elle partage des lectures avec Mazarine Pinjot. Alex Vizorek sera présent. Allez le voir. Fanny Cottençon et Mazarine Pinjot, ce sera samedi à 14h à la mairie du 4e. Puis on vous rappelle tous ces grands auteurs tels Hugo, Stendhal, Kafka, Simone de Beauvoir qui ont écrit leur intimité ou écrivez vous-même, comme disait Vizorek. Autour de la table, pour entourer Fanny Cottençon.
Les gens qui écrivent eux-mêmes, nous avons Juliette Arnaud, nous avons Isabelle Sorrent et Thomas Bidguin.
Et un petit peu d'information, Fanny Cottençon, vous êtes plutôt actue. Vous suivez
Actu, je pars en tournée de la pièce.
Bien joué.
De quelle pièce alors?
Petit crime conjugal. Ah oui, l'actu. Oui, je suis l'actu, bien sûr.
Non, mais allez-y. Vous partez en tournée.
La pièce que j'ai jouée. Vous savez, les acteurs, ils jouent une pièce à Paris, puis après, ils partent en tournée.
Ah bah formidable. On peut aller vous voir partout en France, alors.
Oui, enfin, partout, oui, presque.
Presque. Et la pièce s'appelle
Petit crime conjugal de Schmitt.
Et ben voilà, magnifique. Allez, donc l'autre actu, c'est maintenant.
Si à 19 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?
Le journal de presque 17h17. Et on commence par les titres.
L'émir du Qatar a été reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Mais que peut vient se dire l'homme le plus puissant de France et Emmanuel Macron ?
Les communistes s'agacent du fait que Jean-Luc Mélenchon ne se rendra pas cette année à la fête de l'UMA.
Oui, et ça part d'une mécompréhension. Il avait entendu « fête de l'humilité ». Il s'est dit « mais qu'est-ce que je pourrais donc bien faire là ?»
Il y aura des brèves.
Il y aura des brèves parce que la fête des brèves, c'est tous les jours.
En attendant le Festival de la Brève, bien sûr, qui n'a pas encore été créé.
Je me bats.
Où Fanny Cottençon lira des brèves avec Alex Vizorek. Mais en attendant, on commence par cette belle visite. L'émir du Qatar a été reçu par Emmanuel Macron.
Et oui, ça va lui faire plaisir à Macron de rencontrer le dirigeant d'un pays qui est doté d'un code du travail comme il en rêve.
Sans transition
bien sûr.
Économie.
Bien sûr.
Les entreprises du CAC 40 ont accumulé plus de 52 milliards de profits au premier trimestre 2017.
Et heureusement qu'on va leur permettre de licencier plus simplement, parce que ça devenait intenable.
Non mais 52 milliards de profits, Alex.
De profits, voilà, oui. Voilà. Voilà, mais les gens, ça va mieux quand même. Donc pas la peine de pleurnicher pour ces 5 euros d'APL.
Et la même semaine, Édouard Philippe a annoncé qu'il souhaitait stabiliser le taux du livret A à 0,75% en 2018, voire aussi en 2019.
Oui, les informations vont bien ensemble. Alors j'ai fait le calcul, ça veut dire que si vous avez un livret A gonflé à bloc, vous pourrez vous payer un iPhone 10 avec les dividendes en 2027.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon ne se rendra pas à la fête de l'UMA car il sera en déplacement à La Réunion.
Oui, donc à 9 394 km près, il aurait été à la fête de l'UMA.
Passons à François Hollande.
Oui, invité sur RFI, François Hollande a déclaré « J'essaye d'être utile à la place que j'occupe ». Eh bien, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il le tente, ça.
Sans transition non plus, d'ailleurs, Julie Gayet est de retour sur scène après 20 ans d'absence.
Mais oui, dans un couple, il faut toujours bien que
Il faut toujours bien qu'il y en ait un qui bosse. Je l'ai mangé, celle-là, bah, c'est vendredi.
Les Républicains, le bras droit de Patrick Balkany, condamné dans une affaire d'emploi fictif.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que le reste du corps de Patrick Balkany n'est toujours pas condamné.
Au micro de Jean-Jacques Bourdin, Nicolas Dupont-Aignan a affirmé...
Oui, je souhaite travailler à un programme commun allant de Laurent Wauquiez à Marine Le Pen.
Et de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez, voilà. Ça ne va pas lui demander un travail colossal de fusionner les programmes.
Ça devrait aller, mais rassurez-vous, il n'a pas dit que des conneries lors de cette interview.
Vous savez, les hommes politiques ne prennent pas assez de vacances. Donc ils deviennent un peu dingues parfois.
Prenez-en, Nicolas Dupont-Aignan.
Marine Le Pen, justement, dans une interview fleuve aux Parisiens, elle a demandé à Florian Philippot de clarifier sa situation.
Oui, est-ce qu'il est numéro 2 du FN ou éditorialiste sur BFM TV ? Il faut qu'elle le sache.
Justice ! L'administration pénitentiaire aurait des craintes sur la santé mentale de Salah Abdeslam.
Salah Abdeslam était donc l'homme qui s'est occupé du convoi des attentats du 13 novembre. Alors ça devrait mettre la puce à l'oreille sur son état psychologique. Mais bon, voilà, on a des craintes.
Et Patrick Henry, l'un des plus vieux détenus de France, a obtenu une suspension de peine.
Oui, rappelons qu'à l'inverse, Serge Dassault, l'un des plus vieux délinquants de France, n'a toujours pas commencé la sienne.
Pollution de l'air, oui. Vivre en Chine peut faire perdre 3 ans d'espérance de vie.
Oui, et encore plus si vous êtes opposant politique.
Une page culture, les comédiens des Mystères de l'amour vont eux aussi enregistrer une chanson en soutien aux victimes de Saint-Martin.
Oui, pour les titre, on hésite encore entre Hélène et les typhons et les vacances de la mort, on ne sait pas.
En Ariège, dans une vidéo reçue par plusieurs médias locaux, des hommes armés et masqués menacent de rouvrir la chasse aux ours et une enquête est ouverte.
Oui, la piste se tourne clairement vers le fan club de Jean Lassalle. Oui, c'est déjà une brève, je suis désolé, j'en ai d'autres, je peux y aller, ça vous dérange pas ?
Écoutez, là, on a un peu débordé, mais bon, Haute-Loire, il sortait son sexe au passage des voitures.
Oui, alors ça vraiment,
ça valait la peine,
après le bricolage, Robert Rochefort s'est pris d'une nouvelle passion pour la mécanique.
L'année dernière.
Oui, une dernière. Région dans le Gers, pollution dans la rivière la Baïse.
Il y a le coulou, la Baïse ?
À Condon. Je vous jure que c'est vrai.
Effectivement, merci. Ça valait vraiment la peine. Voilà, c'était festival, en effet.
Point géographique.
Allez, on va passer aux choses sérieuses avec Fanny Cottençon, parce qu'il y a un moment, ça va, quoi.
Pardon,
alors, voici le premier sujet. L'Élysée est, paraît-il, un lieu très toxique de par la proximité avec le monarque. On peut lire dans Marianne, cette semaine, qu'on y vole des idées, il se crée des tensions et ça joue des coudes. Et une fois qu'on en sort, on est tenté de raconter. On persifle, car de Candide, on peut aussi devenir cynique.
Mais elle est hallucinante, Montaigne. Je suis allé exprès lui montrer le discours, elle me l'avait validé, tel quel.
Mais te démolir devant le ministre, c'est une façon de baiser avec toi.
C'est ça la sexualité de cabinet. Tu verras, tu prendras goût toi aussi. Quand tu fais un coup de pute à quelqu'un ici, c'est pas que tu lui veux du mal. Non, non. C'est une relation amoureuse. Et d'ailleurs, si cette personne est bonne, elle te fera un petit coup de pute aussi. Après. C'est comme une caresse. Tu lui fais l'amour. Tu lui frottes la péninsule, tu lui bélines le joyau. Je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Je te le dis, moi, tu prendras goût.
Raphaël Personnaz, Thierry Frémont dans Quai d'Orsay, le film de Bertrand Tavernier. C'est un article à lire donc dans Marianne, intitulé « Élysée, ton univers impitoyable » et signé d'une certaine Clara Dupont-Monod, qui introduit les bonnes feuilles du livre de Pierre-Louis Basse qui s'intitule « Le flâneur de l'Élysée ». Il a été conseillé sous François Hollande. Une fois sorti du palais, le Candide sous les lambris, comme elle dit, prend la plume pour raconter ce qui se passe. On y apprend des choses passionnantes, hein, la couleur des chaussettes du secrétaire général de l'Élysée, ou Benjamin Netanyahou qui, lors de la grande marche du 11 janvier, découvre le bus, l'espèce de car Macron qui doit transporter tous les chefs d'État et demande s'il est blindé. On lui dit « Non, pas du tout, et vous allez marcher dans la rue avec des vrais gens et vous allez vous débrouiller ». On apprend ce genre de choses, mais aussi les coulisses du palais. Fanny Cottençon, vous, est-ce que vous trouvez peut-être curieuse ou intéressante cette démarche d'avoir travaillé au sein du palais, puis une fois qu'on en sort, d'écrire sur ce qui s'est passé ? C'est une intimité aussi, dans le fond.
C'est humain.
C'est ça. C'est qu'est-ce que ça dit de l'humain, qu'il avait envie de dire « je suis là, j'ai été là »
Ce monsieur qui a écrit, qui a écrit après.
Comme d'autres.
Lui comme d'autres,
je pense qu'il est, c'est un journaliste, je crois, ou c'est un écrivain, je ne sais plus.
Alors, Pierre-Louis Basse, il a été journaliste radio.
Oui, je pense,
Oui, moi je trouve qu'on a besoin de ça, même nous, je veux dire, c'est intéressant, c'est amusant. Ouais.
Vous êtes friande de ça, par exemple, si vous ouvrez Marianne et que vous voyez ça, c'est le genre d'article que vous allez lire en disant, tiens, qu'est-ce qui s'est dit ce jour-là dans les
coulisses ? Je sais pas si c'est le premier article sur lequel je me jetterais, mais ça m'intéresse. Parce que j'ai juste noté un truc qui dit, On lui demande « Croyez-vous encore à la politique ?» Oui, mais je suis conscient de l'incapacité des cabinets ministériels à anticiper la France. C'est atroce. C'est atroce. Si le livre se résume à ça, c'est juste atroce.
Oui, c'est assez décourageant.
Mais c'est presque honnête de nous le dire.
Mais c'est très honnête de nous le dire, mais c'est effrayant.
On est
parce
d'accord.
qu'on se le dit un petit peu. Oui. Enfin, voilà, on se le dit quand on voit ce qu'ils font depuis 30 ans. Mais quand on le lit là, on fait « bah ouais ». C'est vrai, donc.
Ça trahit un peu. Ça trahit encore un peu une fascination du pouvoir qui est donc enfouie en nous. Mm-hmm. Autour de la table, est-ce que vous êtes friande de ce genre d'ouvrage,
Juliette, Isabelle. La fascination du pouvoir existe, sinon on n'aurait pas fait cette émission de Picard.
Mais non, on l'a faite pour l'emmerder. Le
oui, bah, parce qu'on parce
mais non,
qu'il nous fascine.
On ne peut pas acheter Voici parce que sinon on se fait riper.
Ouais.
Mais là, on lit les meilleures pages dans Marianne, c'est un peu la même chose.
Quelle est la différence entre Nabila dans Voici?
C'est plus chic de lire Marielle que de se faire gauler en train de lire Voici, voilà,
oui,
c'est tout.
Oui, parce que c'est le monarque et c'est dans un roman.
Oui, et puis on apprend bien aux gamins avec qui couchait Louis XIV à partir de là.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, comme vous avez le micro, Juliette Arnaud, qu'est-ce que vous avez envie de faire découvrir à Fanny Cottençon?
Alors, imaginez Fanny, quelqu'un vous brise le cœur. Et alors, vous, au lieu de vous faire les veines ou au lieu d'aller repeindre son appartement à la fiente de pigeon, si, je connais quelqu'un qui a fait ça, vous composez et vous chantez ça. Alors ça, c'était Train in Vain des Clash, qui a été écrit, composé et chanté par Mick Jones à l'intérieur des Clash, lorsque cette fille-là le quitte assez sauvagement. Cette fille-là, c'est la fille que j'ai dans la main. Elle s'appelle Viv Albertine. Elle est donc écrivaine. Avec ce livre-là, on doit dire écrivaine. Et donc, je tiens à le préciser tout de suite, ceci n'est pas un livre sur une muse, hein, à propos d'une égérie. Ceci n'est pas un livre L'Oréal parce que je le vaux bien. Oui, parce qu'avant, dans sa folle jeunesse, Viv Albertine fut la guitariste et une des compositrices des Slits. Slits en anglais, ça veut dire fente. J'irai pas plus loin, qui était un groupe punk avec que des filles à l'intérieur. Et pour tous ceux qui aiment le punk viscéralement, les Slits, ça compte. C'est un peu comme André Rieu pour les amateurs de rillettes. Ceci n'est pas non plus un livre écrit à quatre mains et donc, en fait, par un ghostwriter. J'irai pas le mot avec un N. Viv Albertine s'est suffisamment battue pour se l'écrire toute seule, son autobiographie, contre d'ailleurs l'avis même de son éditeur. Ah oui, 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 c'est une autobiographie. Vous noterez que je n'ai pas dit autofiction, hein, que personne ne se chope une crise de rétention d'eau. Viv Albertine est anglaise et punk. Punk un jour, punk toujours, et pas ronde serviette au Flore 75006 Saint-Germain-des-Prés. Mais c'est pas n'importe laquelle autobiographie, puisqu'elle commence ainsi, je vous jure que c'est vrai, les deux premières lignes, c'est « Pour écrire son autobiographie, il faut être un sacré connard, ou alors c'est qu'on est fauché. Moi, c'est un peu les deux.
»
Après 400 pages, je vous le dis, fauché, j'en sais rien, mais Viv Albertine n'est pas un connard, c'est une rigolote. Viv Albertine, c'est une rieuse, une qui préférerait s'enlever un bras plutôt que de prendre un bain d'auto-apitoiement, mais c'est surtout une nana qui sait raconter les histoires, et en particulier la sienne, les siennes. D'abord, celle de la petite fille qui n'aime que les fringues, la musique et les garçons, Dixie de sa mère, boum, elle appelle son livre comme ça. Ensuite, celle d'une ado qui vénère John Lennon, aussi parce qu'il ne se sent pas obligé, John Lennon, de déborder de virilité, ni dans le chant, ni dans les attitudes, ni avec sa gonzesse Yoko Ono. Ensuite, c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort avec Mick Jones, donc, qui est au tout début des Clash, et qui décide de s'acheter une guitare alors qu'elle a à peine les moyens de vivre dans un squat pour devenir John Lennon, justement. C'est cette femme qui te raconte son amitié ultra intense avec Sid Vicious, et tu découvres, enfin, après 50 bouquins sur le punk, que Sid Vicious, il était finaud, espiègle, et super jeune, surtout, et ça on a tous oublié. C'est celle qui devient donc une patronne des Slits, c'est aussi une femme qui en bave copieux pour avoir un enfant, et puis se chope un cancer juste après, et qui en guérit, qui après tout ça devient une femme au foyer, et ça lui inspire cette réflexion dont je ris encore. Elle dit « Cette pauvre Madonna, elle a jamais eu l'occasion de balayer son propre sol, quelqu'un le fait pour elle, elle sait pas ce qu'elle loupe. » Elle devient donc femme au foyer, vive Albertine, et elle en guérit, et elle reprend la route des concerts. Et je vais vous garder tu mille autres histoires, parce que vraiment, ce serait pitié de vous déflorer cette lecture passionnante qui te donne envie d'attraper une guitare, même si tu connais pas le début de la moitié d'un accord, d'attraper une chape insensée ou la bouche d'un garçon, et puis punk un jour, punk toujours, je crains tout simplement un coup de chaîne de vélo de la part de Viv. Oui, je l'appelle Viv. À la toute fin de son livre, elle fait une liste, Viv Albertine. Et une liste où elle écrit, en fait, où est-ce qu'elle en est à l'hiver 2013, à passer 60 ans, à la fin de l'écriture de son livre. Et elle note trois choses parmi plein d'autres. Elle dit qu'à partir de maintenant, elle ne sait toujours pas quelle personne mettre à prévenir dans les formulaires d'hôpital. La deuxième chose qu'elle note, c'est « J'ai par moments la certitude de tout pouvoir encaisser » et la dernière occurrence de la liste, c'est « Je crois toujours en l'amour ». Oy. Merci Vive, merci bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous les références de l'ouvrage.
Alors, de fringues, de musique et de mecs, Vive Albertine, chez Buchet-Chastel.
Ah, voilà. Un ouvrage qui pourrait vous intéresser, Fanny Cotton.
Toutes les femmes, voir tous les hommes, voir les gens.
Et c'est bien écrit en plus.
Mais c'est super bien écrit.
Ah ouais, d'accord.
Bon. Merci Juliette.
Bah, de rien.
Eh bien écoutez, à venir, Thomas Bideguin, son grand retour. En régie, on se fout de ma gueule parce que quand j'envoie un disque où il y a une intro, je fais un moulinet avec mon bras.
Et
je
décollé.
Vous emmerde. Et Isabelle Sorrente est là aussi. Voilà, mais au moins le disque est lancé, profitez-en.
Vous marchez Juliette au bord de l'eau. De Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle sur les vieux écrans de 68. Vous étiez chinoise, mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez alpagué de l'autre côté du miroir d'un café.
Des merveilles de Juliette, reprise bien sûr de
Simon.
Yves Simon, bah, bien
Simon,
sûr.
Voilà, exactement. Et c'est une chanson qu'il a composée pour Juliette, enfin en l'honneur de Juliette Berthaud, qui était une merveilleuse comédienne.
On est en train d'en parler avec Fanny. Qui a travaillé avec Godard et aussi avec Rivette.
Avec Rivette, voilà. Il était formidable et voilà, qui était une Algérie des années 70 et 80. Et au moment où sort ce disque d'Yves Simon, qui est formidable, sur lequel il y a les Gauloises bleues, il est vraiment super le disque. D'où vient la merveille de Juliette, voilà.
Thomas Bideguin, Fanny Cotenson, voilà pour l'histoire
de chroniqueur musical, parce que Juliette, elle a une anecdote sur le premier disque, Bideguin sur le deuxième disque.
Donc cet album de reprise de Yves Simon, bien sûr. Il est 17h37, nous sommes en compagnie de Fanny Cotenson, que vous pouvez aller écouter au Festival du Journal Intime, qui a lieu ce week-end à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Et Fanny Cotenson et Mazarine Pinjot lisent le samedi 16, donc ce samedi à 14h. Et vous, Alex, vous savez quand c'est ?
Moi, c'est le dimanche à 16h, mais vous avez dit on lira des gens connus et des gens
anonymes.
Inconnus. Anonymes. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit mais c'est pas bien, pourquoi vous ne donnez pas leur nom ? Parce que vous avez donné des noms de gens connus. Eh bien, il y aura le journal de Claire Pic, Henri-Jacques Dupuis, Catherine Rosset. Voilà, on donne des noms d'anonymes.
Donc, ils sont plus tout à fait anonymes. Ils ont écrit un journal intime.
C'était bien vu de la part d'un tuto.
Anonyme, ça veut dire qu'ils ne sont rien, comme
mais c'est
président.
Ça qu'ils reprochaient. Et donc, voilà.
Ah oui,
c'est récupéré.
Autant pour moi, excusez-moi, pour bien m'expliquer, je pensais que les anonymes, leur nom n'était pas divulgué parce
que c'est un journal intime.
Il y a une Ariane G, donc elle, je suppose qu'elle n'a pas voulu.
Ah,
vous
voilà.
Voyez, il y aura de tout.
Exactement. Thomas Bidguin.
Ah.
Oh, dites donc, c'est votre comeback aujourd'hui.
Mais ben, oui, voilà, un comeback, un peu comme les mecs de téléphone. Voilà, c'est comme ça. Moi aussi, je rêvais d'un autre monde et puis je suis là, finalement. Voilà. Donc, voilà. Et en plus, maintenant, c'est à moi. Je reviens vous parler de storytelling. C'est ça que je fais ici dans cette émission. Je parle de storytelling, comme toujours. Sauf que, visiblement, tout a changé ici à Inter.
Ouais.
On a De Cône l'après-midi, De Morand le matin. La station s'est anoblie. Charline von Vanunecker.
Ah oui, mais van, ça veut dire deux, mais je suis pas noble.
Ah, se réveiller le matin avec De Morand. Non, vraiment, la grille 2006, elle est vraiment super. Et donc, même ici, dans cette émission, tout est chamboulé. Bon, vous avez changé le titre. Guillaume Meurice n'est plus là. Enfin, pas là, en tout cas. Alors que Vizorek, lui, maintenant, il est partout. À la Pépinière, aux Un Rock, chez Ardisson.
C'est tout ce qu'il peut.
On sait bien qui, à cette app, peut se payer le nouvel iPhone 10. Sauf que malheureusement, le programme de reconnaissance faciale de l'iPhone n'arrive plus à prendre en photo toute la tête d'Alex. Il n'y a que Juliette qui change pas. Elle et Rod Stewart. C'est... Enfin, revenons à nos petits moutons d'histoire, dont la laine amoureusement tondue par les grands de ce monde servira, gageons-le, cette année encore, à tricoter la grande écharpe de ces récits qui nous réchauffent et que l'on se plaît à nous enrouler autour du cou, telle la corde, le pendu. Alors, le thème du jour, ce sont les punitions. Oui, parce que la punition, c'est la grande différence qu'il y a entre les histoires et le monde réel. Au cinéma, par exemple, les méchants sont toujours punis. Alors que dans la vraie vie, Laurent Wauquiez court encore. Au cinéma, quand un illuminé veut faire sauter la planète, James Bond, ou Sylvester Stallone, ou François Cluzet, si l'illuminé habite en région Île-de-France, enfin, quelqu'un arrive et l'empêche de détruire le monde et le punit. Alors que dans la vraie vie, Kim Jong-un, par exemple, personne, visiblement, ne le punit. Il a été privé d'iPad pendant toute une semaine, mais bon, ça a servi à rien. Il est turbulent. Il a encore testé un missile ce matin. Et la semaine dernière, il a même déclaré, je cite, « Je vais infliger aux États-Unis la plus grande douleur qu'ils n'ont jamais connue de toute leur histoire. » C'est traduit du coréen, alors c'est un peu écrit approximativement. Mais bon, la plus grande douleur de toute leur histoire. Trump a immédiatement répondu, « Ah ben non, ça c'est moi. » Mais bon, on voit bien que dans la vraie vie, les choses se passent à l'envers, que dans la vraie vie, ce sont les méchants qui punissent. Évidemment, dans les démocraties, c'est la même chose, mais ils sont un peu obligés d'enrober leur discours. Par exemple, Édouard Philippe, au sujet de la loi sur le travail, il a dit hier qu'il démentait tout bras de fer avec les syndicats. Mmh. Sans blague. Et ensuite, il a déclaré que si on voulait voir le reste de son spectacle, c'était tous les jeudis au point virgule, si on aimait bien l'humour. Et enfin, il a dit « Je respecte et j'écoute », il a dit. Et il a insisté sur le fait que la concertation a été une vraie concertation. Un peu comme moi, mon premier mariage avec ma première femme. On a discuté dans le respect, dans l'écoute. On a eu une vraie concertation et puis elle a décidé que c'était mieux, en fait, si maintenant elle faisait l'amour avec Gary. C'est comme ça. Voilà, bah, dans la vraie vie, les méchants ne sont pas punis. Et en plus, les rares fois où ils le sont, on n'a pas le droit de s'en réjouir. Quand je ne sais quelle force climatique envoie un ouragan pour détruire tout un archipel de paradis fiscaux, on n'a pas le droit de parler de punition. Non. On n'a pas le droit de dire qu'enfin quelqu'un a fait le boulot. Non. Au contraire, il faut leur envoyer du riz et des couvertures. Ben tiens.
Ouais.
On n'a qu'à leur envoyer François Cluzet ou Alex Vizorek avec son iPhone 10, ça va les calmer un peu. Enfin bon, Sénèque disait, j'aime bien citer Sénèque, c'est pour ça que les gens nous écoutent dans un podcast, comme ça ils peuvent mettre sur pause et réfléchir.
Oui,
voilà, on
savait
pas pourquoi.
Noter la citation.
Bah, voilà. Donc il disait, on doit punir, non pas pour punir, mais pour prévenir. Voilà, j'aime bien citer Sénèque. Sénèque dit, on punit pour prévenir. Parce que, en fait, dans les histoires, c'est ce qu'on fait. Les histoires, elles ont vocation d'exemple. On punit dans les histoires pour prévenir. Et c'est pour ça que les histoires, elles sont pleines d'innocents, elles sont pleines de méchants et de justiciers. Elles sont morales. Nos vies, elles ne le sont pas. Non. Nous, on avance comme on peut, suivant nos consciences, comme de faibles loupiottes, malheureux pénitents, éternellement coincés entre le moment de la faute et celui de la punition.
Thomas Bidguin, Et de retour, merci en grande forme.
Et le silence que je suis.
Oui, parce qu'il incite
à la... Il était éloquent.
Mais il incite à la réflexion, oh, n'est-ce pas ? Merci. Merci Thomas Bideguin, le spécialiste du scénario, du storytelling.
On va relire tous Sénèque maintenant.
Effectivement.
Ça va faire le week-end.
Fanny et Isabelle Sorrente aussi. Attention, préparez-vous parce qu'il y a du niveau aussi. Fanny Cottençon est avec nous et on va aborder ce deuxième sujet. La médecine n'a jamais aussi bien soigné et heureusement parce que l'industrie ne nous a jamais autant empoisonné. Maintenant, on se fait enfler dès le petit-déj. Il y a du glyphosate dans les chocs à pic. L'association Génération Future alerte sur la présence de cette substance très probablement cancérigène dans les cornflakes. Le glyphosate, c'est un composant du Roundup, vous savez, la saloperie de pesticides de Monsanto, qui rétorque que dans certains foyers, on n'a pas entendu le glyphosate pour bien pourrir le moment du petit déjeuner.
C'est du caramel ?
C'est de la chicorée. On rajoute toujours de la chicorée dans le café.
C'est pas bon, Chécha ?
Si, c'est très bon. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez, là ?
C'est du maroilles.
Du maroilles ? C'est que ça ?
C'est un fromage que c'est un petit peu fort.
C'est bon, hein ?
Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur.
C'est pour ça qu'on trempe dans le café. Ça adoucit.
Lynn Renault, Cadmerat, Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis, bien sûr, scène culte. La une de Libération aujourd'hui, c'est l'ennemi du petit déjeuner avec le glyphosate. On savait qu'on l'avait retrouvé dans les légumes. C'était à la base un pesticide. Et maintenant, dans les cornflakes. Alors, Fanny Cottençon, vous qui avez une fibre écolo très développée, je sais même que vous faites partie de l'AMAP, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Vous allez chercher votre petit panier avec les légumes pour encourager l'agriculture paysanne.
Et les trucs courts, là, comme on dit.
Ah oui, les circuits courts. Exactement. Voilà, vous faites circuits courts. Mais alors, justement, le petit déjeuner, les cornflakes, il y a un truc symbolique là-dedans. C'est le matin, c'est les enfants.
Oui,
c'est,
oui. Enfin, moi, je mange plus de cornflakes depuis longtemps. Mais
Mais dans les légumes, on sait qu'il y en a aussi. La génération future a fait des tests.
C'est odieux.
Est-ce que vous vous sentez comme un peu traqué, comme ça, on se croirait dans un film où on est traqué par le glyphosate qui se niche partout et mais le but, c'est de l'éviter. Mais...
S'il y avait que le glyphosate.
Oh mon Dieu, nous sommes déprimés.
On serait heureux.
Donc, sujet 1, les politiciens ne savent pas gérer le pays. Sujet 2, on est sur la merde.
Mais Fanny Cottençon, comment est-ce que vous en êtes venue, vous, à aller chercher votre panier de légumes auprès de la MAP?
Moi, ça fait très très longtemps que je m'intéresse à ça. Ça fait 40 ans que je mange des légumes, que j'ai diminué la viande, que je mange bio, que voilà. Donc, c'est pas
venu du jour au lendemain.
Comme beaucoup, d'ailleurs, de ma génération.
Mais là aussi, vous êtes pionnière, parce qu'il y a 40 ans, c'était moins répandu qu'aujourd'hui, peut-être.
Oui, et puis peut-être, non, enfin, si, il y a eu une époque où il y avait beaucoup de restaurants bio et tout ça, macrobiotiques, vous savez, du riz complet, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu disparu. Et oui, le circuit court, c'est évident, c'est qu'il faut d'abord, il vaut mieux manger des légumes de saison. Les agriculteurs diminuent de plus en plus dans la petite et moyenne ceinture de Paris, ce qui est très dangereux pour la capitale, paraît-il, que s'il y avait un problème, on pourrait pas nourrir les Parisiens pendant très longtemps. Et voilà, donc il faut se battre pour ça, donc faut encourager l'agriculture à court distance.
Isabelle Sorrente, vous qui réduisez... vous êtes végétarienne ou pas, Isabelle?
Oui.
Vous êtes aussi circuit court, vous?
Non, je vais dans des supermarchés bio. Mais moi, j'avais été très frappée par un documentaire qui était sorti il y a déjà quelques années, qui s'appelait Notre pain quotidien, et qui montrait à la fois les élevages, les abattoirs, et aussi les grandes serres où on cultive les légumes et les fruits. C'était un magnifique film, en fait, sans aucun commentaire, et on avait vraiment ce sentiment que donne un petit peu cette nouvelle, qu'il n'y avait plus aucun espoir, quoi, qu'on ne pouvait même plus manger une tomate. Et non, c'est à nous, parce que moi, j'ai bouffé des Weetabix toute mon enfance, et donc j'ai eu comme petit coup au cœur. Et tout s'explique.
Alors, de rien faire, de rien. En tout cas, l'Europe serait prête à renouveler pour 10 ans la licence d'utilisation du Roundup, qui contient le glyphosate, mais la France va s'y opposer. Le vote aura lieu en octobre, donc il est temps de s'activer. Oui, de
suspense. Non, mais quand on voit la Fanny Terre, moi j'ai vu moi aussi des documentaires, quand on voit la Terre où ils ont utilisé des engrais, des trucs chimiques et tout, qui fait passer l'eau très vite, alors qu'une terre qui a été cultivée normalement et qui, voilà, et l'eau reste et on a besoin beaucoup moins de flotte. C'est concret.
C'est concret. Isabelle Sorrente.
Oui, alors moi, je vais vous parler d'arbres. Alors, c'est un petit peu, on va dire, lié au sujet, en quelque sorte. Et donc, je vais aussi vous parler d'un livre, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui modifient nos perceptions, un petit peu comme des hallucinogènes, en fait. Et c'est des livres aussi addictifs que des drogues, sauf que ces livres-là, eh bien, ce sont des lucidogènes. Parce que c'est la réalité qu'ils nous font tout d'un coup percevoir, une réalité qu'on n'aurait pas vue sans lire ces pages-là. Alors, vous l'avez compris, je suis de très bonne humeur parce que cette semaine, j'ai bouffé un lucidogène. Et c'est un best-seller dont vous avez sans doute entendu parler. Ça s'appelle « La vie secrète des arbres ». Et l'auteur de ce récit, c'est Peter Wohleben, qui est un forestier allemand passionné par son métier et bien sûr par les arbres. Il y a un documentaire qui va sortir, qui est inspiré par le livre, qui sortira le 27 septembre et qui s'appelle « L'intelligence des arbres ». Et en fait, le livre, il commence par un aveu humoristique de l'auteur qui dit « Quand j'ai commencé ma carrière de forestier, j'en savais à peu près autant sur la vie secrète des arbres qu'un boucher sur la vie affective des animaux. » Et c'est ainsi que l'auteur nous apprend comment il a commencé à voir les arbres, en fait, non plus comme des machines à produire du bois, puisque c'est un peu comme ça qu'on voit tous les êtres vivants aujourd'hui. Nous-mêmes, on serait des machines à produire du contenu. Mais bon, il a commencé à les voir comme des êtres vivants qui communiquent grâce à des racines qui s'étendent sur plusieurs hectares et aussi grâce à un réseau de champignons, et pas des champignons hallucinogènes, mais des champignons ordinaires qui, en fait, les champignons qu'il y a autour des arbres transmettent des informations d'un arbre à l'autre. Et donc, lui, il appelle ça un véritable, enfin pas que lui d'ailleurs, les scientifiques, c'est un véritable réseau de communication.
C'est le champignon qui fait Tinder, en fait.
Un petit peu, ça s'appelle le Wood Wide Web dans le bouquin. C'est vraiment comparable à Internet. Et donc, les arbres, ils ont des sens. Ils ont le sens du goût, par exemple. Ils savent reconnaître sur leur écorce la salive d'une chenille dangereuse pour eux. Et du coup, ils envoient des messages olfactifs, c'est ce qui nous explique, aux autres arbres, c'est carrément dément, et aussi aux guêpes qui vont venir tuer les chenilles en question. Par exemple, quand vous baladez l'été dans des forêts de conifères, quand vous sentez par exemple ces bonnes odeurs de résine, eh bien en fait, c'est les arbres qui sont en train de se communiquer les uns aux autres, qui fait extrêmement chaud et qui donc il faut réduire la consommation en eau. C'est assez fascinant, le bouquin, parce qu'il l'explique.
Mais un arbre peut renifler un autre arbre.
Absolument, absolument, c'est ça. En gros, il explique qu'ils ont des sens et qu'ils ont même une mémoire, c'est-à-dire qu'un arbre va se souvenir, comme ils vivent très longtemps, c'est ça qui est fascinant. Pour un arbre qui a 100 ans, c'est en fait un bébé arbre. Donc ceux qu'on coupe en fait dans nos villes, par exemple, c'est un petit peu comme les animaux qu'on abat avant qu'ils aient eu le temps de grandir. C'est en réalité, un arbre à 100 ans, c'est un enfant. Donc c'est des êtres vivants qui vont vivre très longtemps. Donc ils ont une mémoire et par exemple, ils vont se souvenir que l'été d'avant, il a fait très chaud et que du coup, ils ont bu trop d'eau, qu'ils ont attrapé des parasites et donc l'année d'après, ils corrigent. Et ce qu'il y a de fou...
C'est comme nous le lendemain de la veille quand on a trop picolé.
Ouais, c'est ça.
On se dit, mais tiens, mais je vais réguler.
Mais eux ils sont bien obligés parce que c'est sur plusieurs, enfin c'est sur des dizaines et des dizaines d'années. Et il y a une question dans le bouquin qui donne le vertige parce qu'on se dit, mais alors est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce que les arbres souffrent? Alors l'auteur, il répond oui à cette question. C'est-à-dire que lui, ce qu'il soutient, c'est que la différence entre le monde végétal et le monde animal, elle est beaucoup plus... je dirais, beaucoup moins ferme que ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ça pose vraiment, ça résonne avec les questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport au monde animal. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on se dit de toute façon, qu'on soit d'accord ou non avec, je dirais, cette interprétation, ce qu'il y a de certain, c'est que les arbres ont des sens. Donc ce sens de l'odorat, cette faculté de communiquer. Et ça, les chercheurs le savent depuis les années 70. Alors pourquoi il faut attendre 50 ans et le livre de Peter Wohleben pour s'en rendre compte? Eh bien, tout simplement parce que personne n'avait fait l'effort de traduire ces vérités scientifiques en langage très simple et très quotidien. Et lui, l'auteur Wohleben, l'a remarqué lorsqu'il organisait des visites en forêt. Il expliquait les choses en langage scientifique et les gens, ils s'ennuyaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Et il dit, le langage scientifique supprime l'émotion et les gens ne comprennent plus rien. J'utilise un langage humain quand j'écris les arbres allaitent leurs enfants. Tout le monde sait tout de suite ce que ça veut dire. Oui, parce qu'en fait, il explique que les arbres les plus anciens nourrissent les plus jeunes par leurs racines quand ils ont un problème. Et il y a des gens qui ont reproché à l'auteur cette tendance, on va dire, anthropomorphique. Mais en fait, en faisant appel aux sentiments, et c'est ça qui est remarquable dans le livre, c'est qu'il fait exactement ce que faisaient les philosophes grecs, qui s'efforçaient en fait de susciter les émotions de leurs auteurs, hein, par exemple Épictète ou Sénèque, c'est ce qu'ils faisaient. Je réponds. On essaie de donner une cohérence à ces chroniques. En tout cas, ils s'efforçaient de faire comprendre avec les émotions ce que le raisonnement tout seul ne pouvait pas faire comprendre. Et donc là, il faut bien savoir que l'intelligence, la compréhension, la culture, en fait, comme les changements importants de nos vies, sont toujours fondés sur les émotions et sur les sentiments. L'être humain, ce n'est pas un opérateur ni un utilisateur à l'émotivité aussi chétive que celle d'un serveur vocal. Et les arbres ne sont pas de bois. Alors, lisez ou relisez La vie secrète des arbres, hein, paru aux éditions Les Arènes, en plus de voir l'intelligence des arbres qui va sortir bientôt, parce que vous n'allez plus voir, je vous le promets, même l'arbre au coin de la rue qui est solitaire et qui souffre de ne pas communiquer avec ses congénères.
Merci Isabelle Sorrente. Vous êtes du genre à balade en forêt, vous, Fanny Cottençon?
Oh bah oui, évidemment.
Ah oui, c'est votre truc.
Alors, lisez,
ça vous a parlé, oui, c'est bouquin.
Oui, noté. Fameuse histoire du bonsaï qui était tombé amoureux d'un sapin et c'était très difficile à vivre.
Frédéric Fromet est déjà là, dites donc.
Mais
oui, écoutez, on a parlé Sénèque et Épictète et le voilà déjà Fromet.
Bah, Épictète que Frédéric va nous chanter une jolie chanson d'ailleurs. Bonjour Frédéric Fromet.
Bonjour. Attendez,
je suis après. Il met le casque sur ses oreilles. Alors, Fanny Cottençon, chaque semaine, il vient nous chanter l'actualité pour la terminer la semaine en beauté. Frédéric Fromet, de quoi, quand j'ai dit en beauté, il a fait ouais, ça dépend des semaines. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, ce soir, à Paris, se tient un grand concert pour fêter les JO.
Ah, super.
Super, hein. Concert auquel est convié Florent Pagny.
Oh, super.
Dont on se rappelle son tube glorifiant la fraude fiscale. Donc, je lui ai écrit une nouvelle version plus adaptée à l'événement. Non, vous n'aurez pas ma liberté de dépenser. À ceux qui pleurent pour leurs 5 euros d'APL, indifférents aux épreuves de barres parallèles, souriez, on a les JO. Ne faites pas vos troubles fêtes. Peut-être que vos 5 euros auront financé une compète de tir à l'arc ou de water-polo ou d'aviron 400 barreurs. Génial. S'il y a quelque chose à critiquer, dites-le à Teddy Riner. Mais vous n'aurez pas ma liberté de dépenser. D'abord songez à dégager tous les clochards, tous les moins que rien qui roupillent sur nos trottoirs, pour accueillir à bras ouverts des migrants qui le méritent, qui savent lever des haltères, qui savent nager et courir vite, pas des salauds de traîne misère. C'est ce qu'on appelle la magie du sport. Même si on doit se taper les interviews de Nelson Montfort, non, vous n'aurez pas ma liberté de dépenser. Quelle est jolie la tour Eiffel quand elle scintille pour des drogués en short avec des grosses chevilles. Allez au stade, les rabat-joie, il n'y a rien qui soit plus beau que la Marseillaise à pleine voix en agitant nos petits drapeaux à l'Accor Hotel Arena, vivement l'année 2024. Quand il faudra entendre chanter à l'ouverture Kenji Girac, là vous n'aurez pas ma liberté de pioncer. Mais vous n'aurez pas ma liberté de dépenser.
Frédéric Fromet, merci. Oh, c'est tellement meilleur que ce qu'on risque d'entendre ce soir.
Je pense qu'il y a une forme de jalousie vis-à-vis de Kenji Girac. Donc si Anne Hidalgo nous écoute, prenez Frédéric Fromet pour la cérémonie d'ouverture.
clôture.
Effectivement. Fanny Cottençon, merci d'avoir passé ce moment avec nous.
C'était délicieux.
Je rappelle qu'on peut vous entendre au Festival du Journal Intime qui a lieu ce week-end à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Fanny Cottençon, vous lirez des journaux intimes, donc des textes avec Mazarine Pinjot, samedi à 14h. Vous pourrez aussi aller voir Alex Vizorek qui lit avec Claire Chazal.
Exactement.
Alors, c'est quand ?
La thématique de l'amour.
Oui, mais
à 16h le dimanche.
Ah, très bien,
madame.
Voilà, vous êtes plutôt du dimanche. Et Fanny Cottençon, vous pouvez voir, évidemment, en tournée, dans une pièce de théâtre qui, rappelez-moi le titre.
Petit crime conjugal.
Mais oui, d'Éric Emmanuel Schmitt.
On a reçu Sam Kerman sur ce plateau pour parler de cette pièce.
Merci à toute l'équipe, à Nathalie Romero, Marion Lelay, Sarah Masson à la préparation, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, à la technique, Élise Christophe et Fabrice Desmaz. Et le mot de la fin, on va le laisser au glyphosate présent dans les cornes. Flex, heureusement, pas encore dans le Nesquik.
T'es sûr que tu veux pas goûter le Benko ? Moi, je bois que ça, j'adore ça. C'est un délice.